Et bonjour, Annick Delefosse au micro de Radio FM+, pour votre émission 3, Scénorama spécial Printemps des comédiens. Alors c'est tous les jeudis de 18h à 19h, et nous sommes installés au Domaine d'eau, à l'espace presse au fond de la Pinède. Vous êtes les bienvenus. L'émission est diffusée comme d'habitude le vendredi à 10h10, le samedi à 12h10, ainsi que 18h10, et écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Aujourd'hui, je reçois Caroline Cano pour son spectacle « La rue, à qui est ce monde ?» interprété par l'Autre Théâtre, à découvrir ce samedi 22 jusqu'au lundi 24 à 20h au Théâtre d'Eau. Philippe Morizzi, chargé de la programmation de la fête de la musique au Domaine d'Eau, nous présentera les groupes qui nous feront danser ce vendredi 21 juin. Et nous terminerons avec Christian Rizzo pour sa création très attendue « Une maison » à voir ce samedi et dimanche à 20h au Théâtre Jean-Claude Carrière. Caroline Cano, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes auteur, metteuse en scène, vous avez créé votre compagnie La Hurlante en 2011 et vous prenez le relais de Bella Zupone pour la création annuelle des comédiens de l'Autre Théâtre.
C'est ça.
Alors, création qui, depuis 1997, sont présentées et coproduites au Printemps des comédiens. Est-ce que vous voulez bien, en quelques mots, nous présenter l'Adage ainsi que l'Autre Théâtre?
Oui. Ben, en fait, l'Adage et l'Autre Théâtre sont deux associations qui fonctionnent ensemble depuis des années. Hein. Et surtout, ils font en sorte de proposer un accès à la culture à des personnes en situation de handicap mental ou psychique et pouvoir leur permettre de s'exprimer tout le long de l'année aux côtés de metteuses ou metteurs en scène de la région. Donc, en l'occurrence, il y avait Bella Zupone pendant plusieurs années, 6 ans, je crois.
6, oui.
Avant, il y avait Marion Coutarel. Il y a pas mal de metteuses et metteurs en scène qui sont passés entre les mains de l'Autre Théâtre. Et là, j'ai repris la relève cette année. Mais c'est un boulot immense que fait l'Adage et l'Autre Théâtre.
Oui, c'est clair. Alors, bon, moi, c'est vrai que le Printemps des comédiens, je le suis depuis plus de 25 ans maintenant. Donc, je suis aussi l'Autre Théâtre. Et en fait, ça a été créé en 96 à l'initiative de Robert Bedos, le frère de l'initiateur de ce festival, directeur à l'époque, le frère donc Daniel Bedos. Et Robert Bedos est donc directeur à l'époque du Centre Adage. Il l'est toujours ou pas? Il est encore vivant, je me pose la question. D'ailleurs.
Alors, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, malheureusement. Et du coup, je ne pourrais vous donner aucune nouvelle de lui, malheureusement aussi, parce que je n'en sais rien, en fait.
D'accord.
Tout ce que je sais, c'est que depuis des années, l'Autre Théâtre et le Printemps des comédiens cheminent main dans la main depuis longtemps.
Oui. C'est vraiment le rendez-vous. Il y a une vraie fidélité. Alors, Adage, association de développement, d'animation et de gestion d'établissements spécialisés, créé en 85. Voilà, et donc qui accueille dans ces établissements des personnes handicapées. Caroline, en quoi la pratique artistique et créative est importante pour ces personnes?
Je crois qu'elle est importante au même titre que toute personne qui a besoin de s'exprimer, hein, c'est-à-dire tout le monde. C'est vrai que moi, j'y vais vraiment dans l'esprit de création, de créer avec eux ce dont nous avons tous besoin, en fait, toutes les personnes réunies dans le théâtre. Je pense que ça leur permet aussi de, là je parle un peu à leur place, mais sûrement de se valoriser aussi quelque part, comme moi je le fais quand je monte sur scène. Par moments, ça me fait aussi du bien d'être entendu, de pouvoir partager mes idées créatives. Et je pense que c'est à peu près la même chose, quoi. De vivre aussi un moment de groupe tous ensemble, sorti de l'institution aussi. Beaucoup des personnes de l'Autre Théâtre sont dans des institutions depuis leur très jeune âge. Et je crois que ça fait aussi des bulles d'air que de pouvoir se retrouver tous les vendredis après-midi, tous les samedis, un samedi par mois, de pouvoir se retrouver et partager une aventure tous ensemble, et aussi de pouvoir la partager avec des metteuses en scène et des metteurs en scène différents, avec des pratiques, une manière de faire qui est très différente. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui les porte aussi beaucoup. Et puis nous aussi, hein, évidemment, en face, là, toute l'équipe de la Hurlante, on est plutôt ravis quoi, de l'aventure et ça nous porte beaucoup. Quoi.
Oui, c'est sûr. Mais alors justement, ce milieu ne vous est pas inconnu, parce que je pense à Regard en biais, une déambulation de rue, hein, où vous questionniez le handicap mental et physique. Et vous travaillez aussi sur Histoire à partager, une création tout public et adaptée aux enfants en situation de handicap. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, avec plaisir. En fait, Regard en biais, ça a été vraiment le fer de lance, hein, enfin, de la compagnie. Ça a été notre première création en déambulation théâtrale. Donc, je suis partie à la recherche d'entretiens, de témoignages avec des personnes en situation de handicap mental et psychique. Et je suis allée aussi questionner des personnes lambda qui n'étaient pas forcément concernées directement par le handicap. Mais je suis allée poser la question, par exemple, aux habitants de Celle-Neuve, sur la question de la norme. Qu'est-ce que c'est pour vous être dans la norme ou pas ? Et finalement, il y a beaucoup de liens qui se font entre ce qu'on pense de la norme, ce qu'on pense de la folie, ce qu'on pense du handicap mental et psychique. Et mon envie, c'était que tous ces témoignages qui ont été dits entre quatre murs, mon envie, c'était vraiment de pouvoir justement les faire sortir des quatre murs et de prendre la place publique et les rues des villes pour parler d'un sujet un peu tabou, qu'on chuchote à peine des fois même au sein même des familles et qui en fait touche énormément de monde. À chaque représentation de Regard en biais, les spectateurs nous confient leur intérêt, leur émotion, parce que justement, d'un coup, les langues se délient. Ben, mon frère a eu un gros passage à vide. Moi-même, ça m'est arrivé. Ma sœur est en situation de handicap et tout le monde se met un peu plus à parler. Et je pense que ça fait pas de mal. Oui. Du coup, c'est un sujet qui m'intéresse. Artistiquement, il m'intéresse beaucoup. Le fait de travailler avec l'autre théâtre, il y a un geste artistique qui est différent et qui amène et qui entraîne un univers sur le plateau qui est différent aussi. Et ça me plaît, quoi, de pouvoir travailler avec toutes ces singularités, en fait. Oui.
Alors, je vous propose qu'on écoute un premier extrait. Donc, la rue. À qui est ce monde ?
Alors, je me présente. Donc, c'est mon nom Nicolas. On m'appelle Nico et j'ai un surnom, Fly. Je suis plus connu sous le nom de Fly dans la rue que Nico. Et Fly, ça vient que je suis assez... comment dire ? Je suis un petit peu libre de mes faits et gestes. Je vole un petit peu de partout, comme une mouche, un petit peu. Voilà, et je me pose là où je peux me poser, comme une mouche. Et les mouches ont une espérance de vie assez courte. Mais il y en a qui résistent. Et je fais partie de ceux qui résistent. Voilà. En sachant que... Enfin, mon idée pour moi, la société aimerait qu'on crève le plus vite possible et en silence.
Oui, alors Caroline Cano, pour cette création donc avec les comédiens de l'autre théâtre, vous êtes inspirée d'un entretien sonore, c'est donc un des extraits là qu'on vient d'entendre.
Mm-hmm, c'est ça.
Comment avez-vous travaillé sur cette création et sur justement cet entretien ? Nous en entendrons un autre après.
Oui, bah, dès le début des répétitions, c'est-à-dire au mois d'octobre avec les comédiens de l'autre théâtre, j'ai emmené ce thème que j'avais envie d'aborder, c'est-à-dire le monde de la rue, l'exclusion. Beaucoup de personnes, beaucoup d'interprètes se sont sentis concernés par le sujet de l'exclusion par rapport des fois à leur propre parcours. Donc je pense qu'il y a des choses dans le texte, dans l'entretien sonore que j'ai obtenu grâce à Nicolas Fly.
Donc Nicolas Fly, c'est...
C'est Nicolas Fly. C'est le personnage principal, on va dire, de notre histoire. Un personnage qui existe de manière sonore, mais que j'ai rencontré à l'occasion d'une interview. Enfin, voilà, j'ai fait une interview, j'ai cherché des personnes en fait, qui avaient envie de parler de leur parcours de rue. Donc j'ai été dans pas mal d'endroits. Et puis finalement, c'est ma première interview, Nicolas. J'ai fait pas mal d'interviews, mais ça a été la première personne que j'ai rencontrée. Et j'ai été assez envoûtée par son histoire, par sa voix.
Très belle voix, en effet, oui. Très profonde.
Et sa poésie, forte. Sa manière de se raconter avec beaucoup d'images. Et c'est une manière de se raconter qui a beaucoup parlé aux interprètes de l'autre théâtre, qui aiment bien aussi qu'on leur parle avec Ils aiment bien que je leur parle avec des images quand je leur demande quelque chose. Souvent, ça nous permet de mieux se comprendre. Et ouais, j'ai trouvé vraiment une grande poésie dans sa manière de se raconter, de raconter des choses qui ne sont pas évidentes, mais il choisit de tels mots pour le dire que bah, ça nous emmène encore dans autre chose. Pour moi, ce n'est pas juste un simple témoignage, c'est un témoignage assez poétique, en fait. Et c'est ce qui transparaît, je crois, sur le plateau. Après, vous me direz si vous venez, mais ouais, je pense qu'on sent cette poésie qui déborde et qui vient de la rue.
Oui. Alors, vous parliez du plateau. Du coup, quels sont vos choix de mise en scène ?
Bah, mon choix de mise en scène, ça a été de vraiment valoriser la voix de Nicolas. Que ce soit que ce parcours-là, il existe dans ce qu'on entend, qu'il existe aussi sur le plateau de manière très simple. C'est-à-dire, j'ai vraiment voulu avoir un geste poétique sur scène avec des images qui viennent compléter en fait ce qu'on entend. Et j'ai souhaité le faire avec beaucoup de sobriété, en fait. Et en même temps, ils sont 22 sur le plateau.
Ah, j'allais vous demander combien ils étaient, parce que d'une année sur l'autre, ça change. Ouais. Ah oui, là, carrément 22.
Moi, j'ai 22 interprètes, 23 même sur le plateau, qui sont tout le temps en scène. Donc, personne ne sort. Tout le monde est dans la rue, tout le
D'accord.
temps.
Mais quand vous dites 22-23, avec les éducateurs et les... qui les accompagnent, enfin...
Oui, il y a des animateurs,
voilà,
comme on dit.
Voilà, les animateurs, je cherchais
mais,
le mot.
Mais ils sont vraiment interprètes sur le plateau. Moi, je tenais vraiment à ce que les uns les autres se confondent. Mais voilà, qui sont là parfois en aide pour certains interprètes. Mais comme dans la rue, il y a une solidarité qui se crée entre des personnes, on s'entraide. Nicolas Fly, il parle aussi pas mal de ça. J'avais envie aussi qu'on le sente, cette humanité, en fait, sur scène et que oui, s'il y en a un qui a un peu du mal à se déplacer, l'autre va l'aider, mais c'est un peu ce qui peut se passer dans la rue aussi.
Oui. Donc, ouais. Et alors, vous êtes entouré d'une équipe, je pense, une équipe au niveau pour la chorégraphie, pour la musique, vous voulez bien nous les présenter ?
Oui, bien sûr. Alors, je suis entourée de manière magistrale par une assistante à la mise en scène qui s'appelle Charlotte de Perrin-Boussac, qui accompagne le projet depuis le début, avec qui on réfléchit ensemble à la dramaturgie, à la mise en scène. Il y a bien sûr François Boutibou, qui est interprète musicien et qui a composé la musique du spectacle. Stéphane Garcin, qui est créateur lumière. Sarah Frébi, qui a un regard extérieur sur les chorégraphies, enfin sur les corps. Et voilà, en gros, j'ai parlé de tout le monde, je crois.
Très bien. Alors, la première a lieu ce samedi 22 et possibilité de le voir aussi dimanche et lundi. C'est à 20h au Théâtre d'Eau. On va écouter un second extrait avant de se quitter. Donc, je rappelle Caroline Cano. C'est votre première avec les comédiens de l'autre théâtre. Et donc, nous allons découvrir cette création, La rue, à qui est ce monde, interprétée par l'autre théâtre. On écoute.
Ce qui m'énerve le plus dans la rue, c'est... on a l'impression d'être invisible. Alors, ce qui est marrant, c'est que plus on est visible, moins on l'est. C'est marrant, hein ? Plus on fait du bruit pour être visible, ben c'est là où on s'aperçoit que les gens ne veulent pas nous regarder, quoi. Que les gens, voilà. Et plus on est discret, plus les gens arrivent à nous voir. Parce que des fois, la différence, ça crée des troubles, des craintes, voilà. On a peur de ce qu'on n'est pas, hein. Tout simplement, hein. Quand on connaît, ça va, ça rassure. Mais bon, d'un côté, où est l'aventure ? L'être humain est comme ça, quoi. On devrait justement partir à l'aventure plus souvent. Ça pourrait en éveiller beaucoup plus, quoi. All the things.
Scénorama tout en douceur. Donc Scénorama, émission 3 spéciale Printemps des comédiens. Et oui, musique, musique, puisque ce vendredi, c'est la fête de la musique. Alors, elle a lieu aussi, évidemment, au Domaine d'Eau. Et Philippe Morizzi est avec nous pour nous présenter cette super programmation. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors voilà, de suite, quelques mots sur cette chanteuse hyper talentueuse.
Oui, Anne Passeo, en effet, très, très talentueuse. Ce que je vous rappelais juste à l'instant, là, elle vient de remplir la Philharmonie de Paris. C'est une tête chercheuse, on la voit en Birmanie, on la retrouve dans le sud des États-Unis, avec Mélissa Lavo aussi, avec Jan Aded, qui a été une victoire de la musique, peut-être que vous avez suivi, qui a un projet rock. Donc elle travaille beaucoup sur les percussions, essentiellement. Elle, c'est une percu, mais au sens large. Et c'est un grand plaisir parce que c'est une première à Montpellier pour elle. Donc voilà, on a eu l'occasion de l'accueillir pour la fête de la musique. C'était un vrai coup de cœur. Bon, on travaille avec l'agent depuis longtemps. C'est l'agent qui représente Tigran Hamasyan aussi, enfin des gens qu'on suit depuis des années. Voilà. Et en tout cas, Anne, c'était un parcours très particulier. Elle a une espèce de capacité à se nourrir des sons. Elle mélange en fait jazz et world. Hein. Enfin, c'est pour faire un raccourci comme ça. Et avant, en préambule, j'aurais souhaité qu'on fasse qu'on ait une pensée pour Philippe Sdard qui est décédé pour plein de raisons. Parce que il me semble que, bon, comme tu le sais, moi j'étais très actif comme manager de Saint-Germain dans ces années-là. Donc c'est une scène que je connais particulièrement bien. Mais ça, c'est un détail. C'est que je pense que dans cette initiative de la fête de la musique. Donc insufflé par l'État en France et relayé par les collectivités locales, je pense que la French Touch elle s'est inscrite là-dedans aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a encouragé les pratiques amateurs, les pratiques professionnelles, et c'est une des illustrations entre autres ce mouvement qu'on a vu et on l'a vu à travers des quotas. Ça a été de façon un peu moins drôle au départ parce que on a travaillé sur des quotas en radio, donc les lois langues, les lois sur la propriété intellectuelle. Au départ, elles ont été vécues plus ou moins bien, mais il y a quand même des grandes avancées, et particulièrement, il me semble, dans ce qu'on a appelé la French Touch, qui était un mouvement mondial, a vraiment bénéficié de ces possibilités qui ont été offertes à des labels, à l'industrie alternative du disque que tu connais bien, dans laquelle on était inscrits tous les deux, ainsi que d'autres. Et à mon avis, le relais phare, c'était une philosophie, une approche de la vie. Et voilà, donc c'était un coucou à cette personne qui nous a quitté tragiquement comme ça. Et voilà.
Alors, pardon, comme chaque année, cette fête de la musique au Printemps des comédiens va attirer un public très nombreux qui fuit la cacophonie du centre-ville, il faut le dire. Alors, ce Domaine d'Eau est vraiment un lieu magique où les groupes et artistes vont s'installer dans différents espaces. Voilà, dites-nous un peu où nous pourrons découvrir
tu fais bien de le rappeler. C'est vrai que au Domaine d'Eau, la fête de la musique, donc c'est la première année que le Printemps des comédiens organise, hein, mais elle existe depuis très longtemps, donc elle était organisée par Folie Lyrique jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'elle a encore les atours de sa forme originelle. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a des pratiques amateurs, il y a des gens qui viennent de l'international, il y a des groupes qui ont déjà un parcours professionnel, mais l'idée c'était quand même de mêler toutes ces formes dans une espèce de grande fête, alors utopique, mais bon voilà, on voit que ça a fonctionné, et que bon, il y a des endroits de la ville qui sont un peu pas fuit, mais en tout cas il y a des gens qui privilégient ici le Domaine d'Eau pour plein de raisons, et pour la programmation, et pour le fait qu'en effet ils peuvent s'approprier le site, et alors les différents endroits, l'amphido, donc où nous avons Anne Passeo qu'on vient d'écouter,
par exemple, capacité de plus 1800
places,
hein. ouais, donc là,
1800 places, avec en finale le Big Band d'Heidelberg, si tu veux qu'on le fasse dans ce sens-là,
on peut, il
voilà,
a pas
donc,
de soucis,
on va le faire par site si vous le voulez,
ouais,
bien,
si c'est-à-dire, vous voulez bien,
donc il
ouais.
y a Anne Passeo qui va ouvrir à 20h30, et qui sera suivi à 22h30 par le Big Band d'Heidelberg. Donc ça, c'était aussi un clin d'œil au partenariat qu'a la ville historiquement avec la ville d'Heidelberg. Et puis, ça s'inscrit directement dans le traité de l'Élysée, les échanges franco-allemands de la jeunesse. Et c'est marrant parce que ce big band, qui a une carrure professionnelle vraiment, même si c'est des amateurs, ils s'inscrivent vraiment là-dedans dans les échanges. Ils sont super enthousiastes à l'idée de venir ici. Donc ça nous a beaucoup plu. Il y a une qualité, encore une fois, de l'orchestre qui est indéniable. Et donc, ils vont carrément faire le final. Donc, c'était aussi un petit clin d'œil international et aux différentes choses qu'on peut faire avec l'Allemagne sur le théâtre, tu le sais. On a pu accueillir la Schaubühne, la Volksbühne, le Berliner Ensemble. Donc, on a des grandes relations. Et avec le Goethe-Institut, particulièrement, on a fait plein de choses, des rencontres, des lectures. Voilà. Et on salue Joachim, qui est un ami. Donc, voilà.
Donc, ça sera de 22h30 à minuit.
Non, ça démarre à 20h30.
Pour le Big Band.
Excuse-moi. Et en effet, pour le Big Band, c'est 22h30. J'étais encore
Ne commencez pas à me contrarier, hein, monsieur. Alors, l'ouverture des portes, puisque nous sommes dans les horaires, aura lieu à 18h30.
Et donc, 18h.
D'accord. Bon, moi, j'ai 18h30. Et la fermeture à 1h, tout le monde dehors, c'est
non,
ça ?
Non, c'est minuit. À minuit, on arrête la musique.
Voilà. Le temps que tout le monde sorte, on va dire, ça
absolument,
fait du minuit
voilà.
Et demi, quoi.
Exactement.
Voilà. Alors, je vous propose qu'on écoute un petit morceau, peut-être, de Cléa Vincent. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ?
Très bien.
Et puis, vous nous la présenterez, Stéphane et aux manettes, pour Cléa Vincent, « Nuit sans sommeil ». Alors, Philippe Morizzi, Cléa
Vincent,
est-ce que vous voulez bien nous la présenter ?
Oui, c'est une artiste, vous avez pu entendre, une pop un peu légère comme ça, matinée d'électronique. Elle vient de remplir une cigale à Paris, un parcours, donc elle s'inscrit aussi dans cette tradition de chansons françaises. Hein. On a vu ce retour dans les années 85. C'est une belle illustration. Donc, pareil, elle n'avait jamais joué ici. Donc, c'était l'occasion de la recevoir pour la fête de la musique en gratuit, donc pour le plus grand nombre.
Oui. Donc, auteur, compositeur, à découvrir entre 21h30 et 22h30, si mes horaires
sont bons. Tout
à fait.
Donc, ça, ce sera à l'arrière du château.
Voilà. Hein, oui. Alors, on reste à l'arrière du château, Philippe.
Oui.
Puisque nous y sommes. Alors, que pourrons-nous entendre d'autre ?
À l'arrière du château, donc, il y aura quatre formations. On va démarrer avec Joe Ruffier, que certains ont connu avec les Négresses Vertes, entre autres. C'est aussi un touche-à-tout. Hein. Joe, il a fait plein de choses. Donc là, ils sont en binôme, batterie, chant, guitare. Bon, c'est magnifique. Moi, c'est quelqu'un que j'adore. C'est une écriture riche de mille influences. Voilà, donc il sera suivi de...
Il présente son nouvel album, Fragile,
oui,
hein,
oui,
c'est
tout
bien
à fait.
Ça.
Oui.
Donc là, c'est quel titre là qu'on entend, Joe Ruffier ? Ça vous parle ? On écoute 2 minutes, vas-y. Vas-y Stéphane, pousse le son ! Ouais, c'est la fête de la musique !
Vas-y, vas-y, artise, les flammes de l'enfer, elles tournent le droit, tout droit vers le soleil. Vas-y, vas-y, artise, les flammes de l'enfer.
Et alors, je pense à un groupe, moi, qui j'ai vachement envie de l'entendre, je ne le connaissais pas, toujours à l'arrière du château, à tout autre style, c'est les Milliardaires.
Ah oui,
c'est du 100% rock'n'roll, ça va chauffer,
oui,
non ?
Oui, ben là, ça va nous rappeler Link Wray... bah, toute une scène. En fait, ils sont importants aussi. Pourquoi ? Parce que c'est les milliardaires, c'est un tissu musical pour les vieux Montpelliérains, Nîmois. Ils sont de Nîmes, originaires. C'est des gens qu'on voit depuis très longtemps et qui, en effet, perpétuent cette tradition rock'n'roll. C'est très, très bien musicalement. C'est super rythmé, très bon esprit et d'excellents musiciens qui jouent dans d'autres formations. Donc, qui constituent ce tissu dont je parlais.
Alors, on a quand même quelques Montpelliérains. Je pense à Made in Havana.
Voilà, c'est une nouvelle formation où joue un des techniciens du printemps, Vincent, qu'on salue. Et là, c'est une inspiration un peu à la Tom Waits. Il y a des climats un peu sombres. C'est magnifique. Ils ont un guitariste, la Panda, qui joue dans plein de formations. Enfin, tous aussi, c'est des gens qui se produisent dans différentes formations. Ça va du hardcore au reggae, enfin, plein de choses. Et là, ils se sont réunis autour de ce projet. Et je vous conseille vraiment de venir les voir.
D'accord. Alors, un artiste aussi attendu du côté de l'électropop, il est originaire d'Estonie. Vous voyez de qui je parle ?
Oui, on parle de Noeb.
Oui.
Voilà. Donc Noeb, c'est en effet, il vient d'Estonie. Il se produit un peu partout dans le monde. C'est les 3-4 premières fois qu'il va se produire en France. Il a plutôt tendance à jouer devant des foules de 10-15 000 personnes. Alors, c'est un homme orchestre, Noeb. Hein, il faut le voir comme ça. C'est un DJ un peu à la Broken Back, si ça vous dit quelque chose. On est un peu dans ses tempos aussi. Des gens qui cumulent des centaines de millions de vues. Donc c'était aussi un regard sur ces youtubeurs, toute cette nouvelle génération. On parle de 400 millions de vues, par exemple, hein, pour ces gens-là. Et voilà, et c'est magnifique. Il joue de la guitare aussi, il a des percussions sur scène. Donc c'est vraiment un homme orchestre et il s'organise autour de sa console.
On écoute. Must I fight every bone in my body every time you're near? I will not grab you and take you away. For how long can we stay with a long ground? Everything that really sounds from both of our bodies, if it stays the same for too long, it will fade away. But I won't wait until that day comes. If you don't make my move, I lose you for forever. Gonna wait until the day. If you don't make my move, I lose. Donc la fête de la musique, c'est Domendo, une programmation de Philippe Morizzi. Il y aura aussi des déambulations dans le parc avec plusieurs fanfares.
Oui, en effet. Donc il y aura trois fanfares qui vont animer la Pinède, donc cette partie où nous nous trouvons là, la Pinède, l'Amphi, et puis la partie sud, enfin l'allée Cavalière et la partie sud, ce qu'on a dénommé la prairie cette année. Il y a une place des fanfares quand on contourne la scène, donc la scène qui sera électrifiée, la scène avec les quatre groupes qu'on vient d'énumérer. Donc là, il y aura deux fanfares qui vont alterner entre la façade du château et l'espace prairie, donc où se produisent les deux DJ ainsi que Noeb.
Voilà.
Et il y a une troisième fanfare, donc entre autres, qui jouera là, qui s'appelle Fufuta. Alors là, c'est 15 Africains. Je vous conseille de venir voir ça. C'est une pure folie.
Ça va être sympa, ça.
Oui.
Et alors, c'est à quelle heure, Philippe ? Non, mais c'est entre... Oui, c'est
alors,
ça dure
c'est
un
entre,
moment. Hein.
C'est vraiment entre 18h et minuit, quoi.
D'accord,
vous les retrouverez. Elles vont vous surprendre sur le parc. Elles seront partout.
Génial. On a fait le tour, là, pour ces trois fanfares.
Tout à fait.
Alors, juste quelques petites informations pratiques. Attention, vous ne pourrez pas rentrer au domaine si vous avez des bouteilles en verre, des couteaux, de la vaisselle, casque moto, trottinette, vélo et autres objets potentiellement dangereux. Mais il y aura une consigne où vous pourrez les déposer. Voilà, juste à l'entrée. Et puis, bien sûr, à l'intérieur du site, vous pouvez vous restaurer et boire. Vous avez différentes formules qui vous sont proposées. Philippe me signale, mais alors très, très rapidement,
qu'il y a quelques artistes que nous avons
oublié d'annoncer.
Oui, on a imaginé donc au sud, pour finir, on a imaginé une scène donc, où Noeb va se produire, où il y aura deux DJ autour de lui, dont Jack Arcenti, qui c'est un
prononçable. Ah oui, c'est vrai, oui.
Et Selecta Ulysse, donc, qui emprunte à la soul, au vieux morceau de reggae soul qu'on aime, influence Coxon, Toots, enfin des choses comme ça.
Et on termine donc, on fait la transition avec notre prochain invité, Christian Rizzo, avec un extrait de Cayette Jazz Band. Philippe Morizzi, merci beaucoup.
Merci à vous, à très bientôt.
Panorama, votre émission culturelle hebdomadaire sur Radio FM+, donc la troisième émission spéciale Printemps des comédiens. Donc c'est tous les jeudis de 18h à 19h avec diffusion le vendredi comme d'habitude à 10h10, le samedi à 12h10 et ainsi qu'à 18h10 et écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Alors voici notre troisième invité, Christian Rizzo. Christian, merci d'être avec nous. Alors, Christian, pour un petit rappel pour nos auditeurs, depuis janvier 2015, vous êtes à la direction du Centre chorégraphique national de Montpellier, désormais renommé ici pour Institut chorégraphique international. En tant que chorégraphe, je me souviens avoir découvert votre travail avec votre pièce « D'après une histoire vraie ». Là, ça a été vraiment une magnifique découverte. Waouh, quelle chance on a de l'avoir chez nous à Montpellier. Alors ensuite, nous avons pu voir Ad Noctum, le syndrome Yann, le tout faisant partie d'une trilogie donc de pièces chorégraphiques de danse sur la danse. Et avec d'à côté, vous vous êtes lancé sur une pièce tout public à partir de 6 ans. C'était avec trois interprètes. Hein.
Absolument.
C'était une première, on va dire, pour en pièce tout public.
Ben, je pense que je fais toujours des pièces tout public. C'est juste que pour d'à côté, je me suis dit, est-ce que ce tout public, il ne pourrait pas être plus jeune aussi ? Donc voilà. Mais je pense que les pièces sont toujours tout public.
Oui, oui, oui. Et alors, vous voici avec votre nouvelle création, Une maison. Avec pas moins de 14 interprètes. Là, c'était aussi un sacré challenge, non ?
Ben oui, oui, mais ça arrivait au bon moment.
Oui.
Oui, oui, ça fait très longtemps que de toute façon, j'avais envie de faire une pièce plus importante en nombre de danseurs, mais parce que j'aime beaucoup travailler sur les questions de flux aussi, et donc de créer du vide. Et je trouve que c'est toujours fantastique de créer du vide à partir du plein. Parce que le vide ne se crée pas comme ça. Donc, et ça tombait très bien. Voilà, c'était le moment qui me paraissait le plus juste pour me lancer dans cette aventure.
C'était le bon moment. Alors vous signez, comme d'habitude, la scénographie, les costumes, les objets lumineux. La première a été présentée à la scène nationale d'Annecy en mars. Depuis, les dates de tournée s'enchaînent, aussi bien en national qu'en international, et donc notamment à Taïwan. Et les critiques sont dithyrambiques, hein. Ça on peut le dire, franchement, il n'y en a pas autant, je pense à d'autres pièces où c'était partagé, mais là, nous avons hâte de la voir. Alors, quelle est la genèse de cette pièce ?
Un rendez-vous au centre chorégraphique en réunion d'équipe en disant « je veux faire une pièce qui va s'appeler Une maison ».
Bon alors, pourquoi une maison, Christian ?
Eh bien voilà, j'ai fait une pièce pour savoir pourquoi je voulais appeler une pièce une maison.
Non, mais je pense que
plusieurs choses. C'est que c'est vrai que ces derniers temps, je me posais beaucoup la question de où se situe la question de la mémoire aussi dans le travail. Et que voilà, c'était une chose, la mémoire, la transmission, qu'est-ce qu'on fait des pièces qui ne sont plus dansées bon, c'est presque un projet de Pirandello quand les personnages demandent pratiquement en fait qu'est-ce qu'ils sont dans personnage à quête d'auteur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont devenus quand la pièce ne se joue plus. Et c'est vrai que c'est une question qui m'a toujours hanté, en fait, c'est-à-dire une fois qu'on a rangé les costumes et tout ça, mais que sont devenus les gestes qu'on a fait sur les pièces. Bon, il y avait cette chose-là. D'autre part, je savais que je voulais rassembler quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais que la question du rassemblement me paraissait extrêmement importante, et la question du tout et du fragment. Voilà, donc j'avais ces trois pistes-là. Et finalement, je me suis dit, mais finalement, ce n'est pas ça une maison, c'est-à-dire un espace où on convoque aussi constamment sa mémoire, et la mémoire des autres, elle se rencontre, elle fait apparaître les fantômes, mais tout ça, sans nostalgie, parce que je ne suis absolument pas nostalgique, mais tout ça permet de penser son avenir, ses visions. Voilà. Et donc, je pense que tout ça... Et puis, honnêtement, comme le titre apparaît très souvent, très très tôt chez moi, le processus de travail me guide pour me dire, mais pourquoi tu as voulu de ce nom ?
C'est-à-dire que... Alors, attention, une maison et pas la maison ou ma maison.
Absolument, c'est une maison. Je voulais absolument un article indéfini parce que c'est aussi un enjeu d'objectivation aussi de cette question-là. C'est-à-dire c'est de la mettre totalement à l'extérieur de soi pour pas que ça en devienne une histoire personnelle. Même si cette pièce est très intime, elle n'en est pas personnelle. En fait, elle est à tendance universelle dans le sens où j'essaye de comprendre en effet quel serait l'enjeu de façon abstraite, parce que je reste un chorégraphe abstrait, même s'il y a des multitudes de fictions qui apparaissent dans la pièce, mais que cette histoire de composition, en fait, je voulais le trouver dans cette... Oui, qu'est-ce que m'évoque une maison ?
On écoute un extrait. Un extrait de Une maison, la dernière création de Christian Rizzo, à découvrir ce samedi et dimanche à 20h au théâtre Jean-Claude Carrière. Christian, une maison est donc un espace-temps privilégié d'un rassemblement, un être ensemble dans le mouvement.
Oui, c'est un peu tout ça. C'est toujours pareil, je trouve. C'est toujours étonnant quand on fait une pièce, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrache quand même... X personnes à la communauté, voilà, du quotidien, pour s'enfermer dans un studio, je ne suis pas le seul à faire ça, hein, et de réfléchir en fait ensemble de qu'est-ce qu'on produit, vers quoi on veut tendre, et c'est quoi les questions qu'on se pose en fait à ce jour. Et c'est vrai que moi, les questions que je me pose depuis quand même plusieurs pièces, c'est la question aussi de la communauté, du rassemblement, d'être ensemble. Mais c'est un être ensemble avec le respect des solitudes, en fait. C'est ça qui m'importe. C'est-à-dire que tout comme la pièce, en fait, tout a été pensé sur la question du fragment et du tout. Je crois que je ne peux pas penser la communauté sans la célébration aussi de la solitude. On pense toujours à la solitude, on se dit, ah là, ça y est, on va se mettre à chialer. Tout ça, pas du tout. Moi, je trouve que c'est aussi un lieu d'énergie, de compréhension de soi-même. Et de,
c'est un besoin.
Mais oui. C'est un besoin. Voilà. Et du coup, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la question de la communauté, je dirais, c'est l'élasticité entre la communauté et la solitude. Et comment, dans cette élasticité, en fait, je crois qu'il y a des mondes apparaissent.
Oui. Et alors, du coup, pour cette création. Vous êtes nourri, je ne sais pas moi, de films, de textes, de diverses choses, ou c'était déjà en vous, ça devait sortir en fait.
Bon, c'est sûr que ça devait sortir, c'est clair. Parce qu'en effet, ce qui est aussi une différence peut-être avec les quatre dernières pièces, c'est que je dirais presque mes sujets, s'il devait y avoir sujet, il devait y avoir, sont des sujets qui étaient à l'extérieur de moi, c'est-à-dire en effet ces pratiques de danse qui étaient à l'extérieur de moi, cette réflexion sur le public, donc automatiquement quelque chose qui est à l'extérieur de moi en invitant le jeune public à faire partie de ce fameux tout public. Et là, je sentais que quelque chose poussait de l'intérieur, quoi. Donc il fallait comprendre en effet quelle énergie, moi je trouve ça toujours incroyable, pourquoi à un moment donné il y a une énergie telle qui fait que tu as besoin de réunir du monde et de dire il faut se retrouver face au public. Mais quelque part, tu ne sais pas ce que c'est en fait, tu sens que c'est juste une espèce de désir, de nécessité de faire comme une espèce de mise entre parenthèses du quotidien pour lui redonner une valeur en fait. Et je crois que je suis toujours dans cette chose-là, c'est-à-dire qu'il n'y a que la vie qui me guide en fait. Donc en effet, je suis toujours en train de lire, d'écouter des trucs, de voir des choses, tout ça, et c'est très bien. Mais je pense que le truc qui me pousse le plus, c'est quand même tout simplement la vie, le quotidien, des choses extrêmement simples, mais qui me nourrissent, m'émeuvent. Et voilà, et je continue à penser que la vie est dans la vie. Voilà, on sait que je déteste le chaos et le néant, donc à partir de là, il faut que je me débrouille, mais oui. Comme tout le monde.
Oui, mais en fait, ce qu'on aime dans vos pièces, c'est que vous êtes toujours dans l'humain.
Ben, y a que ça qui m'importe, ouais, et puis ouais, ouais. J'aimerais beaucoup être dans l'animal, mais, mais non, c'est ça, je trouve que c'est aussi cette question de ça c'est même pas une question, c'est tout simplement une réalité, une observation de ce qui fait qu'on a envie d'être en dialogue, c'est-à-dire et la question de l'espace, parce que ça c'est une chose qui m'importe énormément de plus en plus, c'est la question de l'espace en fait qu'on s'accorde entre des gens, entre des gens et un espace, entre des gens et du son, entre des gens et une vibration lumineuse. C'est cet espace entre, à quel point il contient tout. Enfin, je suis vraiment persuadé qu'en fait, tout est contenu dans ce vide et que tout ce qu'on essaye d'animer, en fait, c'est pour tenter de rendre viable ce vide, cette nourriture en fait, que nous offre le vide en fait, constamment, si on veut bien prendre le temps. Mais de toute façon, c'est comme n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on ne réussit pas un bon plat si on ne passe pas du temps derrière le fourneau. Quoi. Donc, c'est ça, c'est de s'accorder du temps pour laisser jaillir ce qu'on pense être nécessaire à transmettre de ce vide qui nous entoure.
Oui. Alors, vous parlez d'un rapport tactile entre les danseurs. Comment avez-vous travaillé cela ? Comment les avez-vous fait travailler ?
En se touchant. non, mais je voulais surtout. Je voulais
du frotti-frotta.
Non, c'est pas du frotti-frotta. c'est pas mon genre. Ça, je le garde pour ma vie
privée.
De la
danse contact.
Non, je voulais tout simplement que la question du contact, pour moi, il était important du toucher, parce que le toucher est une action et aussi une réaction. Donc, ce qui veut dire que je voulais tenter que les danses n'aient jamais de début pour les danseurs, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas chargés d'actionner par eux-mêmes un début, c'est-à-dire qu'ils soient pris dans le flux de quelqu'un qui a lancé quelque chose, a été touché, et on continue cette chose-là, et on n'a pas non plus la résolution. Donc en fait, on n'est que traversé. Et c'est vrai que tout le travail sur le toucher a été très important, parce que tout a été travaillé à partir de là, et une fois que cette chose-là, la matière, voire même l'écriture, en fait, était extrêmement présente, c'est là que j'ai commencé à faire entrer de l'espacement entre les corps, et de considérer que l'espace vide allait être un partenaire, en fait, conducteur de ce toucher, de cette énergie entre. Donc c'est vrai que du coup, ça m'a permis d'avoir des presque de protocoles d'écriture, en effet, qui produisaient des choses assez improbables pour moi. Mais voilà, ces solitudes qui finalement, à distance aussi, se touchent.
Alors vous parlez de partenaires, on peut dire que la scénographie aussi est un partenaire de la pièce, hein, n'est-ce pas, et des danseurs.
Ben, particulièrement parce que c'est une scénographie qui est chorégraphiée, puisque c'est une très grosse scénographie lumineuse que j'ai construite, dessinée, et ensuite que j'ai offerte à Cathy Olive, puisque Cathy Olive qui fait les lumières pour moi depuis 20 ans, donc on fête notre 20e anniversaire de collaboration cette année. Donc c'était d'essayer, comme la danse, mais comme la musique aussi, d'essayer de voir à partir des mêmes protocoles de cette question de fragments, de flux et de tout, on arriverait à avoir une chorégraphie lumineuse au-dessus de la chorégraphie dansée, mais ça serait une partition globale. Bon, c'est vrai qu'on est toujours sur ce travail-là, c'est-à-dire de ne pas dissocier, puisque ce qui nous intéresse, c'est la question du mouvement et le relais du mouvement, je dirais presque plus que la danse. Donc comment la musique, le plateau, la scénographie, la lumière et la danse partagent un mouvement et sont en relais constamment, en fait. Donc voilà, après peut-être que derrière ça, je cherche toujours une capacité que peut avoir l'être humain de se mettre en contact avec autre chose que l'être humain. Parce que je considère que quand on est essentiellement en contact avec les êtres humains, qu'entre nous, bon, on voit le résultat quand même, c'est pas jojo. Donc je pense qu'on est peut-être, en tout cas moi, je me sens très connecté avec des choses plus grandes, plus larges, des animaux, de la nature, des flux. Et voilà, et d'être traversé par toutes ces choses-là, on n'est fait quand même que de chimie, et tout le reste est aussi de la chimie, donc on peut se contacter et dialoguer.
Oui. Alors, cette création est coproduite et accueillie par le Printemps des Comédiens, ainsi que par Montpellier Danse. Et là, il s'agit d'une grande première, puisque vous lancez le début de ce festival, et en particulier au Domaine d'Eau. Donc, deux premières, en fin de compte. C'est quand même, c'est grâce à vous, Christian. Parce que c'est vrai que vous avez désiré, voilà, pour cette pièce, être au théâtre Jean-Claude Carrière. Hein. Ça a
Absolument.
Été vraiment un choix très précis de
votre
part.
Oui, c'est un
part.
Choix artistique, oui. Mmh. Très précis. Je voulais présenter la création dans ce lieu que je trouve admirable pour son rapport plateau et spectateur. Et surtout, c'est qu'on a eu une chance incroyable, c'est d'être, de travailler avec le Domaine d'Eau aussi, puisqu'on a pu être en résidence quand même 15 jours au Domaine d'Eau. Donc, je dirais que tout ça était l'alignement des bonnes planètes, quoi. Et c'est juste génial. Que ce soit une première, c'est encore super. Je trouve que c'est très bien. Et je trouve que ça montre bien aussi le travail du centre chorégraphique et de la vision que je peux avoir aussi des frontières qu'il faut pousser, tout ça. La frontière, elle est intéressante quand elle est floue, quoi. Donc, je pense que les pratiques, pour moi, aujourd'hui, elles sont pas ancrées dans le marbre. C'est dans les questions de dialogue. Je vois bien tout le projet du centre chorégraphique est là-dessus, de toute façon. Donc, je trouve que, voilà, d'être à la fois invité par un festival de danse et à un festival de théâtre, et on pourrait être invité par un festival d'art visuel ou un festival de musique, puisque je continue à travailler toujours avec ce groupe Cercueil. Donc, pour moi, tout ça, je pense que tout ça est contenu dans le travail qu'on fait, donc pourrait se déposer à tout moment à plein d'endroits, voilà, de ce croisement des pratiques qui nous intéresse tant.
Écoutez, un seul mot, bravo.
Oh ben, on n'a pas encore joué. Hein, donc.
Oui, donc c'est à voir ce samedi et dimanche à 20h au théâtre donc Jean-Claude Carrière. À noter que ce dimanche est accessible aux malvoyants, grâce aux spectateurs malvoyants, grâce
Absolument.
À une audio-description.
Oui, qui sera faite par Valérie Cassan, avec qui je collabore depuis 2012. Je peux prendre juste
très rapidement
ouais. Vous dire qu'en fait, on a instauré avec Valérie Castan depuis 2012 quasiment une audio-description de pratiquement toutes mes pièces. Donc ça, on le sait assez peu. Mais c'est vrai que depuis 2012, depuis 7 ans pratiquement, toutes les pièces existent en audio-description.
Écoutez, là encore, bravo. On va terminer avec un second extrait donc, d'une maison que vous nous avez envoyée. L'émission se termine, donc merci à Stéphane, à la technique, à toute l'équipe du Printemps des Comédiens, à vous évidemment, chers auditeurs, pour votre écoute, et rendez-vous la semaine prochaine où nous serons toujours au Domaine d'Eau pour, ce sera déjà la fin hein, du printemps, donc on fera un petit bilan, une petite critique de ce qu'on aura vu, enfin bon, voilà, toujours, donc on vous attend ici à l'Espace Presse si vous voulez venir le jeudi entre 18h et 19h, et sinon écoutez l'émission le plus simple, c'est en podcast sur radiofmplus.org. Merci tout le monde. Au revoir.
Merci.
Au revoir.